Voilà, c'est parti. Donc, bonjour madame, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de vous interroger sur votre profession aujourd'hui. Donc, votre profession, c'est l'orthophonie. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu me décrire votre profession et puis me dire au quotidien de quoi il s'agit?
Ok, bien, ben je vais me lancer. Alors, donc ma formation, c'est orthophoniste. Moi, je dis que je m'appelle orthophoniste parce que j'ai fait des études d'orthophonie. J'ai fait mes études à l'université il y a de cela à peu près 25 ans. À l'époque, c'était un diplôme d'orthophonie en 3 ans. Donc, la situation a bien changé depuis. D'autres collègues à moi disent qu'elles s'appellent plutôt logopédistes parce qu'elles ont fait leur formation à... Et puis là, c'était il y a jusqu'à peu de temps, en 4 ans, c'était une licence. Et puis maintenant, ben, j'apprends que tout a changé. Et puis je suis en train de découvrir que l'étudiante qui est en face de moi, on a pour 5 ans. Et que ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, à propos de ma formation, je dirais que, et de mon métier en fait, c'est que pour moi, c'est un métier qui est vraiment au carrefour de beaucoup de domaines différents. Il y a beaucoup d'intersections entre différents domaines. Et puis, de mon point de vue, je crois pouvoir dire que les domaines qui me paraissent les plus importants, c'est la linguistique, la psychologie, les données de type plutôt médical et les données de type plutôt pédagogique. Et il me semble que mon métier, il est vraiment à l'intersection de toutes ces réalités-là. Et puis que, bah, de la même façon, en fait, que le langage qui est au carrefour de beaucoup de choses différentes, le langage et la communication, en fait, font appel à des notions de linguistique, de psychologie, des notions plus au niveau fonctionnel, qui s'appuie sur des données de type plutôt biologique ou médical, et puis en partie aussi sur des notions de pédagogie. À propos de ma profession en général, ce que je peux dire encore, c'est que c'est une profession que je ne regrette pas du tout d'avoir choisie, que j'ai choisie un petit peu par hasard à l'époque, comme des fois les hasards. J'avais commencé par faire des lettres à l'université, ça me plaisait moyennement. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler pendant une période dans un hôpital psychiatrique où j'ai découvert qu'il existait des adultes qui n'arrivaient plus à s'exprimer, chose que j'avais jamais imaginée. C'est vrai que dans ma famille proche ou dans mes amis, je n'avais pas rencontré de gens qui avaient des problèmes de langage. Donc pour moi, c'est vraiment un domaine qui s'est ouvert, quelque chose de totalement surprenant et fascinant. Et puis parallèlement, que j'avais des connaissances qui avaient fait cette formation d'orthophonie, que je me suis intéressée à ça, que j'ai eu la chance d'être prise dans l'équipe parce qu'à l'époque, on devait passer un examen médical à l'entrée, qui était une sorte de numerus clausus déguisé. Et que.
Juste un petit second parce que je vais replacer le micro un peu différemment. Alors, où est-ce que... Alors,
Il a bougé.
Voilà, je crois qu'on va plutôt faire comme ça. Comme ça, il bougera plus. Alors, ça va être sympathique pour la personne, pour mon enseignant qui va écouter ça. Donc voilà, à propos de ma profession en général et en particulier, qu'est-ce que je peux encore en dire dans des choses un peu globales? Bah que oui, d'une façon générale, on peut travailler dans différents milieux, que moi j'ai toujours travaillé dans un service public, que je trouve ça très agréable, c'est un travail en équipe, il y a aussi une notion d'être inséré d'une certaine façon dans un système plus global où il y a une collectivité, il y a des usagers, il y a d'autres types de services publics tels que des écoles, tels que des services de psychologie scolaire ou d'autres types de psychologie, ou encore des tas d'autres services avec lesquels on collabore. Donc moi j'aime bien cette réalité-là. Il y a d'autres personnes qui se sentent plus à l'aise dans une pratique indépendante du métier, qui offrent effectivement plus d'autonomie, mais peut-être aussi une espèce de solitude que moi j'apprécierais peut-être pas. Et puis, il y a une autre réalité qui concerne plutôt le travail dans des institutions ou des hôpitaux, où là, il y a aussi une notion de travail en équipe qui est différente. Il se trouve que j'ai, à part en faisant des stages, j'ai jamais tellement pratiqué cette façon-là de travailler. Voilà, au niveau de qu'est-ce que c'est qu'une logopédiste aujourd'hui, que fait-elle, son métier, je pense que je pourrais encore sûrement dire des tas de choses, mais ce que je pourrais aussi faire, c'est peut-être parler d'un peu des différents groupes de patients et des
Absolument.
différentes pathologies. Alors, moi, je travaille qu'avec des enfants. Les plus jeunes que j'ai eus avaient probablement quelque chose comme 2 ans et ouais, 2 ans, 2 ans et demi. Et les plus âgés aux environs de 17-18 ans. Donc j'ai eu des enfants qui arrivaient ici parce qu'ils ne démarraient pas du tout dans leur langage, hein, qu'ils étaient signalés par souvent les pédiatres, certaines fois leurs parents, pour justement des inquiétudes quant au démarrage du langage. Et puis à l'autre bout de l'échelle, ben, c'était plus des enfants, c'était des adolescents, voire quasiment des jeunes adultes. Et là, je crois que la plus âgée que j'ai eue, c'était une jeune fille qui était au lycée, qui avait des problèmes de bégaiement, en fait. Donc voilà, puis entre ces deux extrêmes-là, j'ai eu toutes sortes d'enfants, plus ou moins grands, garçons et filles, en général beaucoup plus de garçons que de filles, environ toujours 2 tiers de garçons, 1 tiers de filles, qui venaient parce qu'ils avaient différents types de problématiques liées à l'apprentissage du langage. Alors ça pouvait être au niveau du langage oral, au niveau du langage écrit. Et puis, certaines fois, au niveau du bégaiement, moi, je ne suis pas spécialisée dans les problèmes de voix, mais il y a aussi certaines fois des enfants qui viennent chez nous pour des problèmes de voix ou des problèmes de surdité. Si je détaille à peine plus au niveau des pathologies du langage oral, les définitions classiques seraient que je m'occupe d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage de l'articulation, qui ont de la peine à produire les sons en isolé, d'enfants qui ont des troubles de la parole, c'est-à-dire qui ont plutôt de la peine à combiner les sons entre eux pour les mettre dans des mots, des enfants qui ont des problèmes d'acquisition du langage oral en général, avec toujours les deux versants, que ce soit le versant compréhension ou le versant expression, et chez qui on peut remarquer des difficultés, par exemple dans l'acquisition du vocabulaire ou dans l'acquisition de la syntaxe. Les difficultés de langage oral, elles s'organisent, je dirais, sur une espèce de continuum qui vont d'un retard de langage relativement simple, avec un décalage dans les structures d'acquisition, jusqu'à des difficultés nettement plus complexes et plus, j'allais dire, déviantes, mais c'est un petit peu ça quand même, qu'on nomme certaines fois dysphasie. Et puis dans les dysphasies, on retrouve de nouveau cette espèce de continuum où on va de difficultés qui touchent plutôt les aspects de la forme du langage jusqu'à des aspects qui touchent plutôt le contenu. Et tout au bout des dysphasies, on trouve peut-être des troubles qui sont plus des troubles de la communication. Je pense là à ces troubles envahissants du développement qui peuvent aussi des fois être nommés sous le terme de psychose ou de pré-psychose ou d'autisme ou de trait autistique. Voilà. Ça, c'est très grossièrement dit les troubles concernant le langage oral. Dans la sphère orale, je mettrais aussi les troubles de la déglutition. On a aussi certaines fois des enfants qui ont de la peine à placer leur langue pour avaler correctement, ce qui peut avoir certaines fois des incidences sur la qualité de la dentition. Donc on agit comme une aide, comme un accompagnant du traitement orthodontique. Et puis ensuite, il y a tous les problèmes qui touchent le bégaiement, les problèmes qui touchent la voix, et puis les difficultés d'acquisition du langage dans le cadre des surdités, par exemple.
Puis est-ce que les fentes palatines, par exemple, c'est quelque chose qui vous arrive de voir?
Alors, on en voit de moins en moins, je dirais. Moi, j'ai peu d'expérience dans ce domaine. On en a de temps en temps, mais j'ai un peu le sentiment que, c'est vraiment un sentiment personnel, que les dépistages prénataux et les contrôles et les suivis, puis les suivis aussi à la naissance avec les opérations, sont faits de telle façon que j'ai l'impression qu'il y a moins de fentes palatines qu'avant, et puis que quand il y en a, elles sont mieux prises en charge. En fait,
ouais,
elles sont beaucoup mieux opérées, beaucoup mieux suivies. Mais effectivement, ça fait partie aussi de certaines difficultés au niveau de l'oral. Au niveau de l'oral, je pense qu'il y a encore des difficultés plus spécifiques, mais qu'on ne rencontre pas tellement dans une population tout venant, du style avec des fonds neurologiques chez des enfants, ça peut être chez des enfants IMC, ou bien des problèmes d'acquisition du langage dans le cadre de troubles plus globaux, comme des retards mentaux, ou des états psychotiques, ou des enfants qui ont vraiment d'autres types de pathologies associées. Ensuite, au niveau du langage écrit, ben, on a aussi toute la gamme des difficultés qui touchent la lecture, qui touchent l'orthographe et qui touchent l'écriture. Je suis toujours un petit peu réservée avec les termes de dyslexie, dysorthographie, dysgraphie. Je trouve que c'est des termes qui sont très galvaudés, qui sont très utilisés, qui sont un peu des coquilles vides. Ils ont un aspect presque des fois rassurant pour des gens, c'est possible. Puis en même temps, on ne sait pas très bien ce qui se cache derrière. Parce que dire qu'un enfant est dyslexique, c'est bien joli, mais en fait, tant qu'on n'a pas décrit ce qui lui arrivait, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc voilà, c'est des termes que j'utilise quand il faut vraiment, si vraiment ça peut rendre service. Mais dans ma pratique quotidienne, ce n'est pas, c'est pas tellement mon but que de produire du jargon médical. Enfin, pseudo-médical en plus, souvent. Donc voilà, lecture, orthographe et écriture au niveau du langage écrit. Et puis aussi, j'ai l'impression que c'est un domaine qui prend de plus en plus d'importance dans les difficultés qui sont liées aux apprentissages scolaires, c'est tous les problèmes qui concernent la pensée logico-mathématique, ce qu'on appelle aussi des fois la dyscalculie. Alors ça peut toucher plutôt les opérations de pensée, avec tous les stades d'apprentissage dans une optique, par exemple, piagétienne, où l'enfant découvre progressivement toute une série d'opérations mentales qui lui permettent d'avoir une pensée pour opérer, en fait, sur le monde. Et puis, les difficultés de traitement des chiffres, hein, pour faire des calculs et pour faire des opérations, par exemple. Donc voilà, ça, c'est un aspect qu'on a de plus en plus. Il faut dire aussi que les orthophonistes se sont de plus en plus formés pour pouvoir répondre à ce genre de demandes. Donc du coup, on a aussi plus de demandes à ce propos. Voilà, ensuite le bégaiement, je crois que j'ai déjà dit ça, la voix.
Oui, je crois qu'on a fait le
tour. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des deux en groupe. Juste encore, c'est vrai qu'on s'occupe des enfants qui ont des difficultés de langage et de communication ici, mais d'une façon générale, on est aussi appelé de temps en temps, mais dans une moindre mesure, à faire des activités qui peuvent relever de la prévention primaire, avec ça nous arrive d'organiser des séances d'information pour soit des spécialistes, d'autres professionnels ou pour des parents sur les pathologies, d'essayer de trouver des conseils adéquats, des choses de ce genre, de répondre à des demandes d'universitaires, de former des stagiaires, de participer un petit peu à certains projets de recherche ou à répondre à des questionnaires. Donc voilà. Je ne sais pas si ça convient pour la deuxième.
Oui, tout à fait.
Ouais.
On peut faire la dernière qui est de savoir si vous pensez qu'il y a des différences entre les activités d'un enseignant et d'un orthophoniste et du point de vue du langage. Voilà.
D'accord.
Donc, comme ça, spontanément, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Alors, c'est toujours difficile de parler d'un métier qu'on ne pratique pas, à savoir le métier d'enseignant. J'ai probablement des représentations sur le métier d'enseignant avec lesquelles un enseignant ne serait pas d'accord. Mais quand même, ça fait longtemps que je collabore avec des enseignants dans le cadre des traitements que je fais. Donc, je pense quand même que je vois un petit peu comment un enseignant peut envisager le langage. Et j'ai le sentiment qu'un enseignant, il est quand même dans cette idée, puis il a ce mandat-là, et cette mission de faire que l'enfant adopte un langage relativement normé, hein, qui corresponde aux normes définies par le scolaire, hein, par les ouvrages à utiliser. Donc, je dirais qu'une des préoccupations de l'enseignant, elle est déjà là-dedans, c'est de faire que le langage de l'enfant réponde aux exigences scolaires. Alors qu'il me semble que moi, ma préoccupation principale, c'est pas forcément d'abord celle-là, c'est surtout que l'enfant récupère un outil de communication qui soit efficace et qui lui permette de se faire comprendre. Si il se trompe, que ce soit dans la forme, surtout dans la forme en fait de son langage, que ce soit au niveau de son articulation, ou bien parce que sa syntaxe n'est pas encore parfaite, c'est pas ma première préoccupation. Pas par là que je vais commencer un traitement. Par exemple, avec un enfant jeune qui a un gros retard de langage, certaines fois les parents ils ont des demandes très précises sur l'articulation. Ils voudraient que leur enfant arrive à dire un chat et pas un ça, alors même qu'il n'est pas encore capable d'expliquer qu'il a vu un chat dans le jardin. Donc ça pour moi, j'essaye de toujours montrer aux parents, puis je pense que pour les enseignants ça serait la même chose, c'est qu'il y a des priorités, puis que là la priorité elle n'est pas de pouvoir dire correctement le mot chat, mais déjà de pouvoir raconter qu'on a vu un chat. Donc voilà, ça ce serait une première différence quant au regard qu'on pourrait porter sur le langage, je crois, c'est que pour moi l'important c'est que l'enfant puisse faire passer son idée et puis qu'il puisse comprendre la mienne, puis qu'on puisse avoir un dialogue à ce propos-là. Je ne veux pas dire par là que les enseignants ne sont pas du tout intéressés par cet aspect des choses, mais je pense qu'ils ont d'autres exigences. Et puis l'enseignant, à mon avis, il est aussi toujours pressé par le temps, puis par les exigences du programme. Et puis à la fin de l'année, il doit faire en sorte que soit l'enfant soit prêt pour passer au degré supérieur, au degré supérieur, et puis, ou bien alors que l'enfant n'est franchement pas prêt du tout, puis que ça serait plus opportun qu'il refasse une année. Tandis que moi, a priori, j'ai nettement moins ce genre de pression-là. J'y vais au rythme de l'enfant. J'ai une de mes collègues qui aime bien les proverbes et qui dit toujours « ça ne sert à rien de tirer sur un brin d'herbe pour qu'il pousse, il faut lui laisser le temps ». Voilà, alors moi je travaille un peu plus comme ça, hein. Tout en sachant aussi que des pressions de l'extérieur, j'en ai aussi, et puis que je ne peux pas non plus me permettre toujours d'y aller exactement au rythme de l'enfant, mais que c'est quand même un de mes fils conducteurs. C'est vrai que j'ai dit au début que dans mon métier, il y avait une partie de pédagogie, mais en fait, c'est pas l'essentiel, ça. C'est une des composantes de mon métier. Je pense que chez l'enseignant, la partie pédagogique, elle prend nettement plus de place. J'ai pas été chercher de définition précise du mot pédagogie avant cet entretien, mais pour moi, la pédagogie, c'est quand même de chercher comment on va faire pour instruire et pour faire passer un savoir à un enfant en fonction de certains styles d'apprentissage. Mais cette pédagogie, je trouve qu'elle est souvent appliquée à des groupes. Alors ça, c'est une autre différence que je verrai avec l'enseignant, c'est que moi, je travaille la majorité du temps en individuel. Je travaille certaines fois avec des petits groupes d'enfants, mais personnellement, ça m'arrive assez peu. Et puis, en tout cas, jamais avec des grands groupes d'enfants, ce qui est le cas quotidien d'un enseignant. Donc l'enseignant, il va chercher une pédagogie qui est adaptée au plus grand nombre. Si c'est un enseignant qui est capable de se remettre en question et qui a une ouverture d'esprit, il y en a beaucoup des enseignants comme ça, il va peut-être chercher une pédagogie différenciée s'il voit que la première idée ne passe pas. Mais disons, il y a quand même des espèces de contingences qui sont dues de nouveau au rythme de travail, qui sont dues au groupe. Tandis que moi, je n'ai pas ces contraintes. Alors c'est vrai que des connaissances pédagogiques, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent des fois d'adapter aussi des choses. Mais moi, je vais m'attacher à comprendre d'abord de quoi l'enfant a besoin, à quel niveau il en est, qu'est-ce que je vise comme but, et puis je vais chaque fois construire avec des outils que j'ai, mais que je vais adapter un petit peu autrement. Donc voilà, c'est un peu ça que je dirais au niveau de ça.
Je crois qu'on a effectivement fait le tour de la question. J'en ai peut-être juste une dernière, très brève. Pour vous, la recherche en orthophonie, est-ce qu'elle a de l'importance ? À quoi elle sert ? Est-ce que vous avez l'impression que dans votre métier, tous les jours, Vous faites un peu référence à la recherche ou est-ce qu'elle vous informe? Si la recherche n'existait pas, est-ce que ça vous handicaperait quelque part pour, dans votre métier?
Alors oui, ça m'handicaperait beaucoup. Ça me rendrait la vie nettement plus facile. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand je vais à des formations, quand c'est des formations qui me tiennent au courant de ce qui se passe en recherche, je trouve souvent très intéressant. Je trouve des fois assez ardu parce qu'il peut me manquer des bases théoriques, il peut me manquer du vocabulaire, il peut me manquer de la rigueur, il peut me manquer des choses comme ça qui font que la recherche, elle me paraît un petit peu compliquée à suivre, par exemple. Ou bien que certaines fois, elle est un peu loin de ma pratique à moi. Mais en même temps, elle nourrit ma pratique parce qu'elle me permet de revoir ma pratique à la lumière de ce qui se fait dans la recherche de façon plus théorique. Donc c'est en ça qu'elle est utile et je pense fondamentale, ça c'est évident pour moi, parce qu'elle me permet de construire des nouvelles choses en fait, hein, de vérifier aussi que des fois je sais faire et j'en suis très contente, me dire ah ouais, j'ai souvent fait ça et peut-être que j'ai jamais compris pourquoi je le faisais et maintenant je comprends et je vais continuer à le faire. Et puis d'autres fois à me dire, ben non, c'était peut-être pas très malin de le faire comme ça, je vais peut-être essayer autrement. Ça, c'est les aspects intéressants. Et puis je vais dire que des fois, elle me complique la vie parce qu'elle m'oblige à me remettre en question. Et puis ça, c'est des fois fatigant aussi. Se dire, ah mince, c'est encore un truc, là, j'avais pas pensé à ça. Il faudrait peut-être que je vérifie ça et que je fasse autrement. Donc voilà, dans ces deux sens-là, la recherche, elle est... Mais oui, je pense que la recherche, elle est indispensable. Peut-être que des fois, les chercheurs ne viennent pas assez voir sur le terrain. Et ça, je pense que ça serait... On aurait aussi à y gagner dans ce sens. Mais je comprends aussi que pour les chercheurs, c'est difficile parce qu'ils ont toujours besoin d'objets d'études qui sont purs. Et puis, les objets d'études purs, ils n'existent pas souvent sur le terrain. C'est vrai que quand je lis des fois les définitions de quels enfants ont été retenus pour cette recherche particulière, je me dis, ben, je ne sais pas où ils sont allés les chercher, ceux-là, parce que moi, je ne les ai jamais rencontrés. C'est pas des vrais, mais ça fait rien, c'est des artefacts utiles. Voilà.
Merci beaucoup pour cet entretien.
Je vous en prie.